toute la journée sur Equinox Radio. C'est le son de Barcelone en non-stop.
Non-stop.
Et le soir dès 22h, retrouve toutes tes émissions préférées. Lundi.
Le Cercle.
L'émission de référence de l'actu barcelonaise. Le Cercle.
Et on va continuer la conversation avec le domaine de la radio également, et un professionnel de la radio, un précurseur, un avant-gardiste, on dira ça comme on veut. En tout cas, il défend la radio sur IP. On va vous expliquer dans un instant ce que c'est. Son nom, c'est Pierre Bélanger. Il a écrit un livre qui s'appelle La souveraineté numérique. Il est PDG de la radio Skyrock en France. C'est Pierre Bélanger qu'on accueille sur Equinox Radio. Bonjour Pierre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc avant toute chose, Cham, aujourd'hui un petit point sur la manière d'écouter la radio.
Oui, on peut écouter la radio en IP, c'est ce que vous faites avec Equinox, via le player web, le player Facebook ou sur vos applis pour Android ou iOS. On peut écouter dans le monde entier sans restriction. La radio peut également s'écouter via ce que l'on connaît sous le nom de FM, c'est-à-dire avec un transistor, pour parler à l'ancienne, avec
une fréquence hertzienne
limitée géographiquement, et également une nouvelle norme que certains voudraient voir se développer mais qui pour l'instant patine un peu, c'est la RNT. Alors la RNT, c'est comme la TNT, mais au niveau de la radio. Il faut acheter un nouveau poste RNT pour capter géographiquement les stations. Aujourd'hui, la RNT couvre 80% du territoire en Espagne, mais très peu sont les récepteurs qui ont été achetés, donc ça patine un peu, puisque depuis mars 2000, les premières licences ont été accordées, mais les ventes ne suivent pas. Et puis en France, le système est encore juste en phase de test, dans des villes comme Paris ou Nice, par exemple.
Donc pour résumer, on est très content donc de l'avoir au téléphone, Pierre Bélanger. Comme on l'a dit, vous êtes défenseur de la radio, sur IP. Par contre, beaucoup se plaignent lorsqu'on se connecte sur une radio comme Equinox, en passant par la 3G ou la 4G, les auditeurs nous disent que ça consomme des mégas et que leur forfait descend rapidement. Donc, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent le Wi-Fi. Donc, selon vous, quelle est la solution dans le futur pour développer l'écoute sur appli sans se faire bouffer l'intégralité de son forfait?
Je préciserai d'abord que je ne suis pas défenseur de la radio IP au sens de défendre une norme. Je pense que ça n'a aucun intérêt de défendre une norme. Ce qu'il faut chercher à défendre, c'est le plus de choix possible pour le plus d'auditeurs dans les meilleures conditions, et peu importe la norme. Ce qui est intéressant, vous parliez de la RNT. La RNT, c'est un réseau qui cherche à se lancer depuis des années et qui ne réussit pas, tout simplement parce que il n'est pas IP. Alors, on voit bien qu'on est aujourd'hui à l'âge de réseau universel et à l'âge de ce protocole qui définit en fait toute notre vie sur le réseau. Donc par conséquent, on a des normes qui tentent de se lancer mais qui ne sont pas au protocole IP. Et en effet, vous le soulignez également, aujourd'hui la connexion IP se fait par l'intermédiaire des réseaux de télécommunications. Lorsqu'on est en mobilité, chez soi on peut être dans une bulle Wi-Fi, mais en mobilité c'est par l'intermédiaire des réseaux de télécom traditionnels, et donc ça prend sur le forfait data. Et c'est vrai que il y a une vraie contradiction entre de se dire il y a une radio qu'on connaît qui est gratuite, qui est anonyme, qui est en radio diffusée, c'est-à-dire que n'importe qui peut la capter, et que ce soit un éditeur qui lui émet vers tous ou un auditeur qui capte la station qu'il a choisie, il y a là peut-être quelque chose qui allait disparaître. C'est un peu une impasse. Je dirais une impasse du forfait data et l'impasse de la RNT qui n'est pas IP. Alors la solution, elle vient d'une norme qui s'appelle l'EMBMS, en français IP hertzien, qui fait que aujourd'hui, à partir des licences 3G et 4G et supérieures, les cellules de radiotéléphonie ont la faculté de radiodiffuser dès lors qu'elles reçoivent plusieurs requêtes identiques au même moment. Par exemple, 3 ou 4 personnes souhaitent écouter votre station au même moment sur la même cellule. Eh bien, au lieu d'envoyer 3 flux séparés, vous aurez une radiodiffusion, c'est-à-dire que tous les récepteurs pourront capter un seul flux diffusé vers tous au lieu de diffuser en point à point virtuel comme c'est le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à marier à la fois tous les bénéfices de la radiodiffusion, le fait d'être en réception gratuite, notamment c'est un des premiers atouts, mais avec la puissance et la finesse de l'univers de l'internet et de l'IP. Donc voilà, donc la direction qui est prise aujourd'hui est très clairement l'hertzien IP qui est l'avenir de notre métier de radio.
On écoute beaucoup hein, la radio en voiture, que ce soit en France ou en Espagne. Alors aujourd'hui, on peut brancher un téléphone sur les autoradios, mais ça sera le comportement des fabricants de voitures hein, qui fera globalement pencher la balance. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on a des indicateurs pour savoir sous quelles normes sortiront les autoradios de demain ?
On sera de fait avec des autos connectées, de fait connecté au réseau universel qu'est le réseau Internet. Et on ne doit pas raisonner en considérant qu'il y a un réseau plus qu'un autre. En fait, on va vers ce qu'on appelle la transparence des réseaux, c'est-à-dire que c'est le terminal qui choisit le meilleur réseau possible à un moment donné. Donc on est sur une combinaison de réseaux où, à un moment donné, vous pouvez prendre du Wi-Fi pour quelques centaines de mètres ou quelques dizaines de mètres, puis peut-être de l'Edge, de la 3G, du 4G, du GPRS, il en existe encore, et ensuite repasser peut-être en IP hertzien parce qu'à un moment donné, il y aura plusieurs personnes qui demanderont le même flux. Et tout ça sera complètement transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire il ne saura pas sur quel réseau il est et il y aura un arbitrage à faire entre les réseaux et l'application et les opérateurs pour savoir quelle est la meilleure solution possible à chaque instant en fonction du budget de celui qui se connecte, de la qualité de service qu'il a choisi, des services qu'il demande. Il est certain que des services d'urgence, par exemple, devront passer de manière prioritaire quel que soit le forfait. Et puis, il y aura une sorte de qualité de service qui sera minimale mais maintenue entre tous les services.
La multiplicité des réseaux, selon vous, à partir de quand elle pourrait avoir lieu d'une manière effective ? Est-ce qu'il y a une date ? Et est-ce que réellement on arrivera à la fin de l'AFM ? Parce que ça fait longtemps qu'on parle de la fin de l'AFM, mais elle est toujours là. Est-ce qu'à votre avis, il y a une date pour tout ça que l'on pourrait définir aujourd'hui ?
Le fait d'avoir plusieurs réseaux, ça existe déjà. Lorsque vous utilisez votre mobile, vous êtes connecté à Internet et vous êtes sur les réseaux de télécommunications, vous entrez dans une bulle Wi-Fi avec laquelle vous avez qui est soit gratuite, soit avec laquelle vous avez un accord de connexion, et votre terminal, lui, va passer de l'un à l'autre automatiquement. Donc on a déjà des puces qui sont susceptibles de passer d'un réseau à l'autre sans même que vous en ayez connaissance. Donc ça existe déjà. Maintenant, sur la fin de l'AFM, tout a une fin. Donc l'AFM aussi. Mais il n'y a pas d'horizon parce que on a là un réseau, d'abord où il y a en France plus de 150 millions de récepteurs, qui est un réseau à sa qualité d'onde. Ce sont des ondes très robustes qui permettent de capter dans toutes sortes de conditions, qui de surcroît peut tout à fait s'acclimater à un univers IP, au sens où quand vous faites une requête pour capter une station, vous pouvez être en IPH, donc en IP hertzien à un moment donné, mais peut-être vous allez être en FM pendant tout un autre segment et vous recevrez les écrans publicitaires en IP, mais vous écouterez le programme en FM. Bref, on va avoir toutes sortes de combinaisons. Donc on est dans un univers où on n'a pas le choix entre différents réseaux stupides, mais on a une combinatoire de réseaux intelligents. Et l'AFM fait partie de cette combinatoire-là.
Alors, on a beaucoup parlé là avec vous, Pierre Bélanger, de la radio de demain, de la radio du futur, mais vous avez écrit un livre également, Souveraineté numérique, où on parle un petit peu de votre vision du net. Et Cham a quelques questions là-dessus à poser.
Oui, alors Pierre Bélanger, vous plaidez pour l'anonymat sur le net. Est-ce que ce n'est pas une vision finalement qui correspondait à l'Internet 1.0 quand peu de monde était connecté ? Aujourd'hui, une grande partie de la population est connectée. Est-ce qu'il ne faut pas justement un petit peu réguler et limiter l'anonymat ?
Alors il ne faut pas confondre, d'abord je ne plaide pas pour l'anonymat sur le net, je absolument pas. Je plaide pour la liberté des utilisateurs, la maîtrise de leur destin et de leurs données sur le réseau. Mais encore une fois, l'anonymat est un moyen.
La liberté d'être anonyme en fait.
En fait, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
D'accord.
Vous êtes aujourd'hui sous une logique où vous n'êtes jamais anonyme sur le réseau, puisque vous êtes extraordinairement traçable, soit directement, soit par recoupement. Donc, en fait, l'anonymat est quelque chose qui est, je veux dire, extrêmement fragile. En revanche, vous avez le pseudonymat. Le pseudonymat fait que vous affirmez quelque chose sous un pseudonyme, ce qui ne vous exonère pas d'une responsabilité. Puisque au cas où vous contrevenez aux lois en vigueur, eh bien, ce pseudonymat peut être levé. Donc, en fait, le pseudonymat permet la liberté d'expression, mais permet aussi d'avoir une parole plus libre que si elle était forcément sous son nom. C'est très intéressant quand on regarde comment fonctionne la plupart des réseaux sociaux généralistes sous identité réelle, ça devient des plaquettes publicitaires, c'est-à-dire chacun y annonce tout ce qui va bien, des bonnes nouvelles, des trucs positifs, etc. Et ça devient en fait une sorte d'image de marque des individus, mais leur communication authentique, la vérité de leurs paroles, aujourd'hui, elle n'est plus sur ces réseaux nominatifs. Aujourd'hui, elle est en France sur un réseau comme Yax qui vient de se lancer, ou d'autres encore qui existent, où on a cette faculté, certes, d'avoir toujours la responsabilité d'être identifié le cas échéant, mais on a cette liberté d'être sous pseudonyme.
Alors pour finir justement un mot sur Facebook, vous reprochez au réseau d'utiliser les données utilisateurs et de faire du commerce avec, mais n'est-ce pas aussi la règle du jeu puisqu'on utilise un service gratuit? Est-ce qu'il n'est pas normal que Facebook utilise des infos qui lui permettront de rentabiliser le réseau?
J'ai rien reproché spécifiquement à Facebook. Je dirais, j'ai eu une réflexion plus générale en disant que aujourd'hui, lorsque des données et des informations sont captées sur ma personne ou sur mes comportements, je n'ai pas la certitude de leur destinée, de leur usage, à qui elles peuvent être vendues, ce qu'on peut en faire, comment elles peuvent être manipulées, changées, agrégées. Donc, je pense que la trace numérique qu'on laisse derrière soi est une partie intégrante de soi, c'est un soi hors de soi, et que on ne peut pas ne pas avoir la maîtrise de son utilisation. Alors, il peut toujours y avoir des modèles économiques qui prennent appui sur l'utilisation de données, mais aujourd'hui, il est très clair que ce n'est pas clair. C'est-à-dire que lorsque vous laissez une trace sur le réseau, vous ne savez pas qui va utiliser cette trace. Est-ce que c'est votre compagnie d'assurance qui va l'utiliser pour voir la manière dont vous vous comportez? Est-ce que c'est une agence bancaire? Est-ce que c'est une mutuelle de santé? Est-ce que c'est un employeur? Et qui d'autre encore? Vous n'avez aucune idée de ce qui est fait avec les informations que vous laissez.
Mais aujourd'hui, les gens...
Cette situation-là n'est pas acceptable.
Les gens sont conscients tout de même de ce traitement
des... Vous pensez vraiment ça? Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, il y a une vraie conscience de l'usage qui peut être fait des données? Non, il y a une résignation, il y a une inquiétude qui est en train de monter en disant « mais est-ce que ces données ne peuvent pas être utilisées contre moi ?» Mais on n'a pas la conscience véritable de se dire « il y a des informations qui ont été prises sur mon comportement sur le réseau ». Par exemple, vous employez le mot « barbecue » sur le réseau. Vous êtes sur un réseau social, vous faites un mot « barbecue ». Ce mot « barbecue » signifie que vous avez une vie sociale, que probablement vous rencontrez des gens qui ont un jardin dans lequel ils peuvent faire un barbecue, que il y a donc un certain niveau de vie dans lequel vous vous placez, ça améliore votre scoring bancaire pour avoir un emprunt. Mais en revanche, si vous employez le mot avocat, vous pouvez vous retrouver dans une situation où disant ah, c'est quelqu'un qui peut aller vers le litige, c'est quelqu'un qui a des problèmes, c'est quelqu'un qui éventuellement a des frais de justice, etc. Ça diminue votre scoring. En fait, par simple mot que vous utilisez sur le réseau, vous pouvez changer le crédit bancaire qu'on va vous faire, simplement le taux qu'on va vous proposer. Je veux dire, on ne peut pas imaginer de dire « attention, pop-up, vous allez employer le mot avocat ». Alors, je ne dis pas barbecue d'avocat, je ne sais pas ce qui se passe dans ce cas-là, mais vous allez employer le mot avocat. Attention, si vous prenez un crédit bancaire dans les 3 mois qui viennent, vous serez à 0,1 au-dessus de la moyenne. Ça, c'est une vraie information consommateur. Je ne la vois pas aujourd'hui.
La vision du net de Pierre Bélanger, l'avenir de la radio. Vous retrouvez également le livre de Pierre Bélanger qui s'appelle La souveraineté numérique, hein, qui est sorti, qui est encore en vente un petit peu partout sur Amazon depuis l'Espagne pour l'acheter. Et Pierre Bélanger, donc président, directeur général et fondateur de Skyrock, qui a répondu à nos questions ce soir sur Equinox Radio à Barcelone. Merci Pierre Bélanger.
Je vous remercie et bonne chance à vous.
Merci. Bonne soirée. Ciao.
Bonne soirée. Au revoir.
Pierre Bélanger qui était sur Equinox Radio Barcelone à l'instant. On remercie également Christophe Coqui qui a fait la première partie de l'interview.
Merci Christophe, et on retrouve toutes les infos sur geekjunior.fr.
Et l'émission continue là, Le Cercle, avec le son de The Avener, le nouveau The Avener qu'on avait eu en interview, que vous retrouvez en podcast également sur equinoxmagazine.fr. Vous retrouvez toutes les interviews sur equinoxmagazine.fr. Vous retrouvez Bob Sinclair, vous retrouvez Agnès Jaoui, vous retrouvez Fatboy Slim, Boys Noize, tous les artistes qui sont passés à Barcelone sont passés en interview sur Equinox Radio. The Avener, le nouveau, déjà sur Equinox. 8 Street Dialogue maintenant.
L'émission. émission de référence de l'actu barcelonaise.
Le cercle sur Equinoxe.